France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pendant 4 ans, des millions d'Américains ont entendu le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, décrire la presse comme son ennemi. Il a utilisé le terme d'ennemi du peuple.
Les présidents de tous les partis et de toutes les inclinaisons politiques n'ont jamais été enamourés de la presse. Aucun président ne séduira jamais le quatrième pouvoir aux États-Unis.
Je pense que nous avons sans doute vu un âge d'or du reportage d'enquête au cours des 4 dernières années. Les grandes organisations de presse comme le New York Times, le Washington Post ont fait un travail exemplaire en essayant de rendre transparent ce que Trump et sa Maison Blanche ont essayé de garder secret.
Son mode de communication favori, les tweets. Il en a envoyé en moyenne plus de 40 par jour au cours des 4 derniers mois. Donald Trump préfère s'adresser sans filtre à sa base électorale et court-circuiter la presse. « Je suis en guerre contre les médias », déclarait-il dès son arrivée à la Maison-Blanche. Fini la participation du président au dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche, blacklister les journalistes se permettant de poser des questions qui fâchent et place à la vérité alternative. Depuis le début de son mandat, estime le Washington Post, Donald Trump a formulé quelques 25 000 mensonges ou allégations trompeuses. Mais chaque fois que les journalistes tentent de rétablir les faits, il les accuse de désinformation. « Fake news », répète-t-il à l'envi dès qu'un article ne va pas dans son sens. Et ses soutiens le croient. Ces attaques répétées contre les journalistes coïncident avec une baisse de la confiance des Américains dans les médias. Aujourd'hui, seuls 12% des républicains et 35% des démocrates jugent les médias nationaux dignes de confiance. Et les Américains s'informent de plus en plus par l'intermédiaire des réseaux sociaux où circulent allègrement rumeurs et théories du complot. Comment se porte le journalisme aux États-Unis à 2 mois de la fin du mandat de Donald Trump? Et quelles leçons la presse américaine doit-elle tirer de ces 4 années mouvementées? 4 ans de fake news, être journaliste dans l'Amérique de Trump, c'est un reportage signé Maxime Tellier. Dans Grand Reportage, nous accueillons aujourd'hui Sébastien Maure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en société et culture des États-Unis à l'Université de Lorraine et membre du CREM, le Centre de recherche sur les médiations. Vous travaillez plus particulièrement sur les médias conservateurs américains et sur les relations entre Donald Trump et la presse américaine. Également avec nous depuis Washington, Grégory Phillips. Bonjour Grégory.
Bonjour à tous.
Correspondant permanent de France Culture aux États-Unis, vous nous apporterez votre témoignage et vos réflexions après le reportage de Maxime Tellier. Maxime, vous rentrez des États-Unis où vous avez suivi les élections du 3 novembre et la longue attente des résultats. C'était aussi l'occasion pour vous de suivre le travail des journalistes américains, Maxime.
Oui, pour tout vous dire, moi j'étais à Philadelphie le jour de l'annonce du vainqueur et ça faisait voilà quelques jours qu'on se demandait pourquoi les médias américains n'osaient pas attribuer la victoire à Biden alors que la dynamique était clairement en sa faveur. Alors il y avait le nombre record de votes anticipés par correspondance, hein, le décompte prenait du temps, mais aussi une très grande prudence des médias américains face au phénomène Trump hein, qui les avait tant surpris en 2016 et même en 2020. Il a fait beaucoup mieux que ce que les sondages indiquaient. Mais voilà, plus le temps passait, plus sa victoire devenait improbable. Hein. Il a fallu attendre en fait qu'elle devienne quasi impossible pour qu'il prenne la responsabilité de l'annoncer. Et on voyait déjà des tensions. Trump, 2 jours avant, en conférence de presse, dénonçait des fraudes. Et CNN, MSNBC, ABC ont interrompu la diffusion pour dire voilà ce qu'avance le président est faux. Et puis 2 jours après, c'est même Fox News qui a interrompu la porte-parole de la Maison-Blanche quand elle parlait elle aussi de fraude sans éléments factuels. Et donc au moment de l'annonce, moi j'avais trouvé une équipe de CBS à Philadelphie pour qu'ils m'expliquent leur prudence, leur excès de prudence. Et c'est là que le résultat est tombé.
Votre reportage commence justement le 7 novembre, jour de l'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden par les médias américains.
CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House.
Il est 11h24 ce samedi-là sur la côte est des États-Unis quand le présentateur vedette de CNN, Wolf Blitzer, déclare enfin un vainqueur 4 jours après le vote. C'est Joe Biden qui l'emporte grâce à sa victoire en Pennsylvanie. Au même moment, là où je me trouve, à Philadelphie, les partisans du candidat démocrate descendent dans les rues pour fêter l'annonce. Mais ici, comme partout dans le pays, des Américains racontent une toute autre histoire que les médias. Pour eux, Biden n'a pas gagné. Et à Philadelphie, des républicains très remontés donnent aussi de la voix.
Fuck you! Fuck you!
He's disgusting and he's a pedophile. Get out of my country, you pig.
Celui-là relaie des messages conspirationnistes du type QAnon, selon lesquels les démocrates seraient à la tête d'un réseau pédophile mondial. Les autres à côté sont plus calmes et policés, mais ils répètent ce que déclare leur président, Donald Trump.
Biden didn't win.
Biden n'a pas gagné. Il n'y a pas de victoire de Biden. Et il ne sera jamais mon président.
C'est impossible que Biden ait gagné de façon honnête. Il n'y avait aucun enthousiasme autour de sa campagne. Quand Barack Obama avait gagné en 2008, là, c'était évident. Il avait un soutien très large, y compris chez les indépendants et certains républicains, mais pas cette année. Donc, c'est un coup d'État coordonné entre les gouverneurs démocrates, les procureurs démocrates, les entreprises de la Big Tech et les grands médias qui veulent empêcher la volonté du peuple d'être connue.
Et cette version alternative de la réalité défendue contre l'évidence des faits, c'est la caractéristique de ce mandat de Donald Trump. Très déroutant pour les journalistes. Le premier que je rencontre est reporter pour la presse locale dans le New Jersey. Une interview en visioconférence à distance pour cause de Covid.
I'm Jonathan Salant.
Je m'appelle Jonathan Salant. Je travaille pour le New Jersey Advance Media, qui est le plus grand média d'information du New Jersey, avec une série de sites web et de quotidiens. Je suis basé à Washington depuis 30 ans maintenant, et d'habitude, lorsqu'un politicien disait quelque chose de faux, la presse le corrigeait, et le politicien reconnaissait son erreur. Oh oui, j'ai mal parlé, je ne le pensais pas comme ça. Je me suis trompé, je ne le referai pas. Et effectivement, ils n'insistaient pas. Mais cette fois, peu importe ce que la presse écrit ou dit, les politiciens répètent les mêmes choses encore et encore. Même si vous citez des sources qui montrent que quelque chose n'est pas vrai, ils le répètent encore et encore et encore et encore. Et c'est la plus grande différence.
Donc vous diriez que c'est très difficile de faire votre travail ?
Ça n'est pas si difficile de faire son travail. Mais le truc, c'est que vous n'obtenez pas la vérité.
Et lorsqu'un reporter ou qu'un journaliste insiste un peu trop, il s'expose à la colère du président américain, sur Twitter bien sûr, mais aussi lors de discours ou de conférences de presse, comme ici le 7 novembre 2018 à la Maison Blanche, un échange très tendu avec le journaliste de CNN, Jim Acosta, à propos de l'immigration. Ça n'est pas une invasion, monsieur le président.
Honnêtement, je pense que vous devriez vous contenter de diriger CNN et de me laisser diriger le pays. Et si vous faisiez mieux votre travail, vos chiffres seraient bien meilleurs.
Monsieur le Président, si je peux poser une autre question.
Ça suffit, posez le micro. CNN devrait avoir honte de vous avoir comme salarié. Vous êtes une personne grossière et horrible. Vous ne devriez pas travailler pour CNN. Quand on propage des fake news comme CNN le fait beaucoup, on est l'ennemi du peuple.
Donald Trump a fait une marque de fabrique de ses propos incendiaires, en rupture avec toutes les normes démocratiques que respectaient ses prédécesseurs à la Maison Blanche. Mais pour Jonathan Salant, cette rhétorique, qui peut tant choquer, n'est pas la clé pour comprendre le soutien infaillible des supporters trumpistes.
Beaucoup de gens étaient d'accord avec ce que le président Trump voulait faire. Beaucoup de gens en Amérique se sont sentis laissés de côté. Leur usine dans le quartier a fermé et ils travaillent maintenant chez McDo au salaire minimum. Et vous savez, mes grands-parents sont arrivés d'Europe pour venir ici. Et mes parents sont allés à la fac la nuit, gratuitement. Ils pouvaient se permettre d'aller à l'université, ils avaient les moyens de se payer des livres. Et ils ont intégré la classe moyenne, ont connu une ascension sociale. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire cela. Ils ne font pas d'études supérieures. Ils sortent du lycée et n'intègrent pas la classe moyenne. Ces emplois ont disparu. Ils ont déménagé à l'étranger, dans des régions moins chères. Et les gens ont peur. Et les gens voulaient une solution. Et le président Trump a répondu à cette demande des Américains qui ne voyaient pas d'avenir pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de domaines où il s'est très bien débrouillé d'ailleurs. Par exemple, la dépendance aux opioïdes, les gens meurent à cause de ces drogues. Trump a mis sur pied une commission des opioïdes pour régler le problème. Donc, beaucoup de gens ont soutenu le président et ne se soucient pas de ses mensonges. Ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est qu'il a promis de les aider. Et donc, il l'aide en retour.
Et pour ce journaliste, le soutien à Donald Trump est à trouver également dans la disparition de la presse écrite locale aux États-Unis, avec des régions devenues des déserts d'informations. Les salariés des rédactions américaines n'étaient plus que 39 000 en 2017, moitié moins que 15 ans auparavant, d'après le Pew Research Center. Une situation dramatique pour Jonathan Salent, qui a été le témoin de cette chute.
But the media itself...
Il y a eu un grand bouleversement au sein des médias, avec un énorme passage de la publicité imprimée à la publicité en ligne. Or, la pub en ligne ne représente que des centimes à côté des millions de dollars que l'on gagnait avant du temps de la presse écrite, qui détenait un monopole. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. N'importe qui avec un ordinateur peut démarrer un site web. Et l'argent a cessé de circuler pour faire vivre ces journaux. Seuls quelques grands titres s'en sortent. Le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post, ils se portent très bien. Mais beaucoup de petits journaux périclitent. Personne ne les lit et ils ne gagnent pas l'argent dont ils ont besoin pour être des publications dynamiques. Les Américains avaient à disposition de très nombreux journaux régionaux. Mais ces journaux ont disparu. Ce sont des coquilles vides, les fantômes de ce qu'ils ont été. Il n'y a donc plus grand monde pour interroger le gouvernement, pour qu'ils rendent des comptes. C'est à cause du manque d'argent. Ils n'ont pas l'argent pour être dynamiques.
Est-ce que vous pensez que la présidence de Trump aura un impact qui va durer au-delà de sa présidence, parce que le président Trump va quitter le pouvoir en janvier?
Il faut que ça cesse, parce que pendant 4 ans, des millions d'Américains ont entendu le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, décrire la presse comme son ennemi. Il aurait pu parler simplement de désaccords, qu'il avait d'autres arguments à faire valoir. Il aurait pu critiquer des points précis d'un reportage, dénoncer des biais. Non, il a utilisé le terme d'ennemi du peuple. Et c'est un mot vraiment puissant, pas anodin. Et cette rhétorique est là. Elle ne peut faire que du mal. Elle n'est pas là pour apporter des solutions.
Hi, Paul. Et direction maintenant la capitale, Washington DC, où je rencontre un autre reporter. Il travaille pour le Washington Post. Sa spécialité, les médias. On se retrouve sur la terrasse extérieure d'une célèbre marque de café.
Je m'appelle Paul Fahey. Je suis journaliste pour le Washington Post. Je couvre les médias. Je travaille pour le Post depuis 1988. Je dois dire que quelque chose s'est passé ces quatre dernières années qui ne s'était jamais passé auparavant. C'est que les gens nous remercient d'avoir fait notre travail. Ils nous envoient des messages, des remerciements, parce qu'on a dit la vérité, qu'on a été honnête. Mais on fait simplement notre travail. C'est une expérience assez différente d'être remercié quand on fait son travail. Moi, j'ai été très surpris par ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Je m'attendais à ce qu'il y ait de graves violence contre les journalistes, et ça ne s'est pas produit. Nous l'avons vu en 2016 lors de la campagne, lors de certains rassemblements où il y a eu des bagarres. Mais dans la plupart des cas, les journalistes ne sont pas menacés physiquement. Et cela m'a surpris positivement. Mais il y a beaucoup de menaces anonymes par email. J'ai reçu des menaces de mort, mais il n'y a rien qui s'est vraiment passé. Et je reçois aussi beaucoup de courriers haineux, mais là encore, ce sont des menaces sans vraiment de conséquences. Alors je ne veux pas tenter le destin, parce que demain, un journaliste pourrait être battu ou assassiné, Dieu nous en garde. Mais néanmoins, rien de vraiment terrible n'est arrivé, et j'en suis heureux. Et je suis surpris même, parce que je pensais que quand cela a commencé, cela deviendrait, vous savez, comme la Russie, et que vous verriez des choses terribles, mais elles ne se sont pas produites.
Et chez Paul Fahey, deux avis très contradictoires cohabitent, celui du citoyen plutôt inquiet pour son pays, pour l'avenir de la démocratie américaine, et celui du journaliste qui, au fond, a pris son pied pendant ce mandat de Donald Trump.
Well, I will tell you one thing.
Je vais vous dire une chose, je ne sais pas si les autres seront d'accord, mais je dirais que ce fut le moment le plus intéressant, le plus excitant, et d'une certaine façon, le moment le plus amusant pour être un journaliste. Pas parce que j'aime la façon dont le monde se déroule, que j'approuve ou désapprouve telle ou telle chose en particulier. Mais les journalistes vivent pour l'histoire, la story, comme on dit en anglais. Et il y a eu une histoire constante à couvrir et à rapporter. Et en tant que journaliste, c'est ce qui nous anime le plus. Les gens pensent que nous avons des préjugés, et peut-être qu'on en a. Mais notre parti pris, c'est surtout pour une grande histoire. Et Trump, quoi que vous en pensiez, quoi qu'on en pense, a été une grande histoire. Si inhabituelle, si différente, et souvent même assez tragique et ruineuse. Mais néanmoins, toujours une histoire. Et ça, du point de vue d'un journaliste, c'est très excitant.
Mais vous pensez que le journalisme a toujours autant d'impact ? Trump a très mal géré la pandémie, par exemple, et pourtant beaucoup d'électeurs ont voté pour lui.
Il est possible que ce que vous dites soit vrai, mais je vais vous dire, on ne dit pas aux gens quoi penser, on leur donne les faits. Ce qu'ils font de ces faits leur appartient. S'ils veulent être inconséquents, imprudents au sujet de leur santé, s'ils veulent rouler trop vite sur la route, sans ceinture de sécurité... Nous ne pouvons rien leur dire d'autre que porter une ceinture de sécurité sans excès de vitesse, ça serait meilleur pour votre santé et pour les personnes qui vous entourent. C'est la même chose avec le coronavirus. Je veux dire, on a dit à plusieurs reprises toutes les choses très simples qui sont nécessaires pour savoir comment éviter d'être infecté. Les gens ont choisi de ne pas nous écouter. Ils ont choisi davantage d'écouter leur chef politique. Et les induit en erreur sur les faits, sur ce qu'il faut faire dans cette pandémie.
Mais par exemple, quand Trump a été visé par une procédure d'impeachment en début d'année, après des révélations de la presse sur son appel au président ukrainien, à qui il demandait l'ouverture d'une enquête en Ukraine pour discréditer Joe Biden. On peut considérer que ces faits étaient au moins aussi graves que ceux reprochés à Nixon au moment du Watergate. Mais Trump n'a pas été ennuyé. Alors, le journalisme a-t-il vraiment toujours un impact ?
Oui, le journalisme a toujours un impact. Ça n'a pas donné le même résultat que Nixon, mais il y a des conséquences. La raison pour laquelle la procédure d'impeachment a été lancée, c'est à cause des reportages publiés sur l'appel téléphonique que Trump a eu avec le président ukrainien. Mais ce qui a changé, ce n'est pas tant le journalisme. On fait la même chose que Bob Woodward ou Carl Bernstein en 1972. Ce qui a changé, c'est la politique. Et à certains égards, ce qui a également changé, c'est que les médias ont maintenant une très grande aile conservatrice qui peut contester tout ce qui a été rapporté avec précision. Ce qui a changé dans les médias, ce qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas au début des années 70, c'est un média conservateur très fort, comme Fox News, qui conteste tous les reportages très factuels et qui ont été publiés sur chacun de ces cas. De sorte que ça donne un moyen aux républicains et à Trump de contester ces reportages instantanément. Et cela leur permet de changer le sens de la réalité, de ce que sont les faits. Vous n'aviez pas ça pendant le Watergate. Et quand ces faits sont apparus, il n'y avait pas de contre-médias qui vous dirait que tout ça n'est pas vrai et que tout ça est inventé. Par ailleurs, Nixon était très différent de Trump. Nixon n'a jamais utilisé le terme « fake news », il n'aimait pas la presse, il détestait la presse, mais il n'a jamais déclaré publiquement que ce que nous rapportons est faux, comme Trump le fait. Il n'a pas créé non plus de fondation pour permettre à ses supporters de contester toute information le concernant. Et je pense que le journalisme d'aujourd'hui est aussi bon qu'au temps du Watergate.
Vous écoutez la musique qui accompagne les informations sur la chaîne Fox News, lancée en 1996. Elle est devenue aujourd'hui la source d'information des électeurs républicains, mais n'est pas le seul média à occuper ce créneau. D'autres chaînes comme One America News ont aussi été créées récemment et bénéficié de la dynamique du mandat de Donald Trump. C'est également le cas de Newsmax, basé à Washington. Son rédacteur en chef nous reçoit dans son bureau. Donc je suis ici dans le bureau de John Gizzi,
qui est journaliste à la chaîne Newsmax, un média conservateur ici à Washington. On est à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche. Et là, il envoie des textos parce qu'on vient d'apprendre que Trump vient de renvoyer le secrétaire à la Défense. Et donc, entre deux textos, on fait cette interview. Sur les murs de son bureau, il y a des photos avec Barack Obama, Sean Spicer, and you are with Nixon.
Nixon,
yeah.
And Bush.
Every president.
Right, Reagan, Obama.
Okay. Marion Maréchal Le Pen aussi.
Maréchal, I got to get used to calling her that.
Yeah. So,
okay.
Let's start, yes. So, what's your position? Alors, quelle est votre position vis-à-vis du président quand il parle de fausses nouvelles sur les journalistes qui sont les ennemis du peuple? Vous vous sentez ciblé?
Pas vraiment. Rappelez-vous quelque chose, les présidents de tous les partis et de toutes les inclinaisons politiques n'ont jamais été enamourés de la presse. Ils ont été très critiques. Le président Franklin Roosevelt, par exemple, était aimé des journalistes qui le suivaient, mais détesté par leurs éditeurs qu'il appelait la presse conservatrice. Richard Nixon critiquait la mauvaise presse. Et John Kennedy aimait des journalistes mais pas vraiment aimé par les gens pour lesquels les reporters travaillaient. Aucun président ne séduira jamais le quatrième pouvoir aux États-Unis.
Êtes-vous d'accord, par exemple, avec le New York Times ou beaucoup de médias mainstream, comme on dit, quand ils disent du président Trump qu'il est un président unique parce qu'il est en guerre avec les médias? C'est une expression qu'il a lui-même utilisée.
Ce n'est pas si unique quand on connaît l'histoire des présidents et des médias. Et je peux penser à plusieurs présidents qui ont eu leurs difficultés avec la presse. George W. Bush n'était pas d'accord avec le New York Times et le New York Times n'était pas en faveur de George W. Bush.
Mais George Bush n'a jamais parlé de la presse comme étant l'ennemi du peuple.
Non, il ne l'a pas fait. Mais rappelez-vous, en 2000, à propos du regretté Adam Clymer, le plus grand journaliste politique du Times, Bush l'avait désigné par une partie de son anatomie.
Vous n'êtes donc pas perturbé par ce qui s'est passé ces quatre dernières années?
Non,
pas perturbé du tout.
Mais par exemple, à propos de la question du coronavirus, si vous êtes un républicain aux États-Unis, vous estimez que Trump a bien géré la pandémie parce que vos sources d'information vous le disent, Fox News, etc. Mais vous pensez le contraire si vous êtes un démocrate, car vos sources sont différentes. Il semble que les gens aux États-Unis ne vivent pas dans la même réalité. Êtes-vous d'accord avec ça?
Non, pas du tout. Je pense que tout le monde a sa propre opinion sur chaque information. Je ne suis pas d'accord avec le Financial Times, par exemple, mais je le lis tous les jours.
Mais auparavant, on pouvait avoir une opinion différente, une interprétation différente des choses, mais aujourd'hui, il semble que vous pouvez avoir une interprétation différente des faits, comme, vous savez, l'expression « fait alternatif ».
Eh bien, j'ai entendu cette expression à un moment donné. Écoutez la façon dont je vois les choses. J'applique toujours ce que l'un de mes premiers rédacteurs en chef et mentors m'a dit. Trouve quelqu'un pour appuyer ce que tu dis, trouve une seconde source, et ensuite tu peux publier l'histoire. Et quand vous avez deux sources qui disent la même chose, il y a des chances que vous ayez des informations assez solides. Et je dirais aussi que lorsque vous regardez votre pays, la France, et que vous examinez la question des faits alternatifs. Regardez le président Mitterrand quand il a donné son point de vue sur le Rainbow Warrior, ce bateau piégé par les services français et dont l'explosion a fait un mort. Et puis examinez les faits au fur et à mesure qu'ils ont été révélés. Et vous trouverez des faits alternatifs, pour reprendre votre expression.
Oui, mais il a fini par reconnaître la réalité et il n'avait pas des millions d'électeurs pour le soutenir et valider son déni.
Il a d'abord nié l'implication du gouvernement français dans l'explosion qui a détruit le Rainbow Warrior et qui a tué une personne. Et puis il a fini par reconnaître les choses. Je dirais aussi que si vous voulez appliquer ce terme de faits alternatifs, regardez l'explication du gouvernement français sur le Rwanda, quelque chose qui fait encore l'objet d'un débat dans votre pays.
Donc la présidence Trump, pour vous, c'est juste de la com politique habituelle, business as usual.
Eh
bien, je pourrais dire qu'une fois que vous avez vu un président, vous les avez tous vus, mais ce serait presque contraire à mon propre sens de l'histoire. J'adore couvrir la Maison-Blanche et j'aime l'histoire politique américaine. Et je dirais que l'on va voir différents types de présidents au fil des ans, comme nous voyons différents secrétaires de presse. Ici, dans mon bureau, vous regardez les photos sur le mur et vous verrez des photos de tous les secrétaires de presse avec lesquels j'ai traité parmi les présidents des deux partis. Et je dirais simplement que lorsque vous les traitez tous avec respect et que vous essayez de suivre l'information chaude, vous serez également traité avec respect. Parfois, cela prendra un peu de temps. Je peux dire que l'un des trois secrétaires de presse du président Obama m'a offert, disons, un mur et m'a ignoré pendant un certain temps parce qu'il n'aimait pas particulièrement certaines de mes questions. Mais j'ai dépassé cela et je me suis bien entendu avec son successeur.
Et avec Joe Biden qui va succéder à Trump, vous attendez peu de changements? Parce qu'une grande partie de la presse américaine attend des changements avec Biden.
Si l'avance du vice-président Biden se maintient et si le collège électoral l'élit le 14 décembre, je dirais qu'il rétablira les points de presse quotidiens dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Je pense qu'il rencontrera plus souvent la presse que le président Trump, ce que j'avais beaucoup critiqué à propos de cette administration. Et je crois qu'il se rendra disponible même pour des publications avec lesquelles il n'est pas d'accord sur le fond. Il faut attendre, rester à l'écoute pour des développements ultérieurs.
Et comme la plupart des républicains que j'ai rencontrés pendant ce séjour aux États-Unis, John Gysi me tend la main pour me saluer, comme au temps de l'avant-Covid, avant de sortir pour rejoindre la Maison-Blanche. Il enfile tout de même son masque, qui est obligatoire dans les rues de Washington. Direction New York City maintenant, autre capitale du journalisme aux États-Unis, siège de grands médias et d'une école parmi les plus reconnues du pays, l'école de journalisme de l'Université de Columbia à Manhattan. Je retrouve d'abord Jen Eisner. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans comme rédactrice en chef du Jewish Forward, un journal new-yorkais destiné à la communauté juive américaine, avant de devenir, il y a un an, la directrice des études de l'école. On se parle à distance, en visioconférence, toujours à cause du Covid, et elle voit des raisons d'espérer pour l'avenir.
Eh bien, ça a été un grand défi. Ça a été très difficile d'établir des relations avec les représentants du gouvernement quand il y a une telle animosité de la part du président. Et c'était vrai dans la rédaction où je travaillais, et c'est aussi vrai à l'école de journalisme de Columbia. Cela dit, je pense que nous avons sans doute vu un âge d'or du reportage d'enquête au cours des 4 dernières années, et les étudiants y croient vraiment. Et cela malgré les défis actuels, la pandémie de Covid, les manifestations pour la justice raciale, il y a toujours eu ce sens vraiment fort d'une mission de journalisme. Il y a tellement d'exemples, les grandes organisations de presse comme le New York Times, le Washington Post ont fait un travail exemplaire en essayant de rendre transparent ce que Trump et sa Maison Blanche ont essayé de garder secret. Tout, de la façon dont son organisation utilise l'argent des contribuables à son propre refus de payer ses propres impôts et divulguer ses informations fiscales. Nous avons également assisté à l'émergence d'organisations à but non lucratif qui font spécifiquement des travaux d'enquête journalistique. Bien sûr, le plus grand, le meilleur, c'est ProPublica qui continue de gagner des prix Pulitzer pour son travail, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Maintenant, on reconnaît que les nouvelles locales et régionales ont également besoin de ce genre de reportage agressif. Et il y a plus d'efforts pour essayer de soutenir cela également.
Mais votre travail de journaliste a-t-il autant de sens qu'auparavant? On parlait de la presse américaine comme du quatrième pouvoir. Nixon a démissionné à cause de l'enquête du Washington Post et du New York Times. Il semble aujourd'hui que cela ne serait plus possible. Vous pourriez publier d'excellentes enquêtes sans qu'il n'y ait d'impact.
Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un impact. Je pense que c'est si important pour le présent et pour l'avenir. Cette semaine, j'ai été tellement impressionnée par ce que le New York Times a fait. Vous savez, dans l'utilisation des données et d'infographies pour comprendre l'élection présidentielle, ils ont appelé les secrétaires d'État de chacun des 50 États américains. Ce sont eux qui sont en charge des élections dans notre pays. Ce n'est pas un système national, il est piloté par les États. Et les journalistes du Times cherchaient à savoir s'il y avait eu des fraudes dans ces États. Ils ne savaient pas quelles seraient les réponses. Même si vous aviez une intuition, vous n'étiez pas sûr de ce que les réponses allaient être. Et ayant contacté 45 des 50 États, ils ont découvert qu'il n'y avait vraiment pas de fraude électorale. Et ce sont des États qui sont dirigés par les républicains autant que par les démocrates. Et c'était du journalisme de base. Vous savez, poser une question, puis passer par le travail fastidieux d'essayer de trouver quelle est la réponse. Et je pense que cela a un grand impact, même si l'occupant de la Maison Blanche ne le croit pas. Beaucoup d'Américains le croient.
Mais beaucoup d'Américains ont quand même voté pour Trump, 72 millions, même plus. Vous êtes inquiète de cela?
Oui, je suis inquiète et franchement mystifiée, mais c'est mon opinion personnelle qui ne devrait pas vraiment affecter le journalisme que nous faisons. Nous devons comprendre ces Américains à coup sûr. Et pourtant, en même temps, notre obligation n'est pas envers un chef ou un parti politique. Le but est d'essayer de découvrir la vérité du mieux possible. Mais je pense qu'en fin de compte, nous devons avoir la foi. Les mots, la raison et les faits prévaudront. Je veux dire, sinon, à quoi bon exister en tant que société, sans parler de notre profession?
Et après, la professeure place à l'élève sur le campus de Columbia, devant le hall Pulitzer, où se trouve l'école de journalisme. Une statue de Thomas Jefferson est là, un président américain qui défendait une presse libre, me dit Sarah Goodman, 28 ans, étudiante ici depuis un an. Nous quittons le campus pour un parc à côté. L'interview se fait en franglais avec Sarah, qui a visiblement révisé ses cours d'histoire, hein, du journalisme.
Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que les États-Unis appliquaient autrefois une loi qui s'appelait de Fairness Doctrine, la doctrine d'impartialité, qui a débuté en 1949, mais elle a finalement été retirée en 1987. Cela signifiait essentiellement que les chaînes d'information avaient des obligations de la part de la Commission fédérale des communications, la FCC. Si vous étiez un réseau de radiodiffusion et que vous obteniez l'une de ces licences très lucratives, ça signifiait que vous deviez diffuser des points de vue multiples sur une question et que vous deviez aussi choisir des questions qui étaient d'intérêt public. Et à l'époque, au bout du compte, les gens pouvaient tomber d'accord sur certains faits. Et l'une des choses que je trouve troublante à notre époque, c'est qu'il semble que nous n'arrivons plus à avoir un consensus sur les faits. Les gens vivent en quelque sorte dans des silos séparés. Et ce ne sont pas seulement des opinions différentes. C'est comme si les gens semblaient croire à des faits différents sur ce qui s'est passé. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui dépasse les journalistes. Mais en ce qui concerne les journalistes et ce que nous pouvons faire, je pense qu'il s'agit d'essayer de mettre différentes personnes en conversation, de faire en sorte que les voix sous-représentées aient la chance d'être entendues. Essayer de trouver des gens dont la vie a été affectée par des problèmes plus importants, trouver leurs histoires et les mettre en conversation avec des législateurs ou des personnes qui contestent l'existence même de ces situations. Je pense que c'est l'une des choses que les journalistes peuvent faire. On doit faire beaucoup de recherches, essayer de créer des idées différentes et des voix différentes, et essayer de les rassembler d'une manière qui contribuera à réparer certaines des choses très, très fracturées que nous voyons aux États-Unis en ce moment.
Bon, le contexte est particulier cette année parce qu'il y a beaucoup de cours à distance, c'est ça, hein?
Bah oui, c'est un peu bizarre, mais quand même, j'ai l'opportunité de faire la connaissance de plusieurs membres de la classe et d'accord. Ça me fait énormément de plaisir.
Est-ce que vous discutez entre vous, entre élèves, avec les professeurs aussi, de ce contexte très particulier? Est-ce que vous en discutez beaucoup de tout ça?
Oui, mais quand même, c'est un programme un peu international. Parmi le groupe de reportage politique, il y a... je pense 5 ou 6 personnes qui viennent de l'étranger. Donc on a quelqu'un qui vient de Nigeria, un autre qui vient de Singapour, un autre qui vient de Danemark. Donc vraiment, il y a une richesse pour faire les comparaisons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre par rapport à l'étranger.
Vous pensez par exemple à des leçons qu'on pourrait tirer d'autres leaders autoritaires qu'aux États-Unis?
Je pense que nous avons des leçons à prendre, oui. Dans d'autres pays, les gens ont dû accepter, en tout cas reconnaître que leur gouvernement ne les protégeait pas, qu'il ne les représentait pas pleinement, qu'il ne répondait pas à vos attentes. Et c'est quelque chose dont beaucoup d'Américains finissent par prendre conscience. Et je veux dire aussi, pour être parfaitement franche, je pense que c'est quelque chose que les gens de couleur aux États-Unis savent depuis longtemps, que le gouvernement ne va pas s'occuper de vous et que vous ne pouvez pas compter sur les institutions pour venir vous soutenir. Vous devez absolument vous organiser pour porter vos causes. C'est quelque chose, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de la façon dont les communautés de couleur se sont organisées et représentées elles-mêmes.
Je sens comme un esprit combatif en vous.
Some spring in my step.
J'ai beaucoup d'entrain, oui.
I mean, I think that, especially when you spend a lot of time on a story.
Je veux dire, surtout quand on passe beaucoup de temps sur une histoire, un article, et qu'on apprend à connaître les gens, c'est dur de ne pas se soucier des sujets que vous traitez. Et quand vous voyez que ces sujets font l'actualité, font l'objet de débats publics, je pense qu'il est normal de se battre pour présenter les faits tels que vous les avez vus. Donc, si cela signifie que j'ai un esprit combatif, alors oui, peut-être que je l'ai. There's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American.
God bless the USA de Lee Greenwood, musique diffusée lors des meetings de campagne de Donald Trump. 4 ans de fake news, être journaliste dans l'Amérique de Trump, un reportage de Maxime Tellier avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour commenter et compléter ce reportage, nous sommes avec Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis, et Sébastien Maure, maître de conférences en sociétés et cultures des États-Unis à l'Université de Lorraine. Sébastien Maure, on l'a entendu dans le reportage de Maxime, en réalité Donald Trump n'est pas en guerre contre tous les médias. Ce sont d'ailleurs des appuis médiatiques qui l'avaient aidé à accéder à la présidence des États-Unis.
Oui, effectivement, en fait, sa stratégie, elle repose sur deux points, c'est-à-dire d'un côté, s'assurer le soutien indéfectible des médias conservateurs, et là, on a vu depuis 2015 que ces médias-là ont serré les rangs derrière lui, et puis par ailleurs, sa stratégie repose aussi sur l'exploitation, une exploitation très habile des normes du journalisme américain, donc des médias grand public, qui lui permet en fait d'asseoir, d'avoir assis sa légitimité et d'avoir conservé cette légitimité toute la durée de son mandat, puisqu'au départ, c'est pas quelqu'un qui est issu du monde politique, et donc il a eu besoin de mobiliser les médias conservateurs et grand public pour asseoir cette légitimité.
Et il a obtenu l'appui en particulier de Fox News.
Oui, tout à fait. Alors, ça a été un ralliement qui ne s'est pas fait immédiatement. Il y a eu une réticence au départ, notamment du service d'information et de Rupert Murdoch, de soutenir Trump, qui était vu en fait comme un personnage trop instable pour pouvoir tenir la route jusqu'à l'investiture et obtenir la victoire. Mais par contre, les talk-shows d'analyse politique qui sont diffusés en prime time, et ces talk-shows qui définissent en fait l'identité de Fox, se sont très vite ralliés à lui. Et puis il y a eu un ralliement beaucoup plus général à l'été 2016. Et effectivement, donc Fox est rentré dans les opérations de la campagne, puis ensuite de la Maison Blanche.
Mais c'est intéressant effectivement de souligner, comme vous le faites, que Fox News n'est pas monolithique. Son soutien à Donald Trump varie selon les programmes. C'est la matinale qui a le plus apporté son soutien à Donald Trump ?
C'est la matinale d'un côté, ce sont aussi donc les talk-shows du soir diffusés en prime time. Ce qui est intéressant par rapport à la matinale, c'est que effectivement ça a été la première émission de Fox à ouvrir ses portes à Donald Trump, à lui proposer un forum dès l'année 2011, qui est l'année où Trump se lance dans une campagne contre Barack Obama pour remettre en cause sa légitimité en tant que président, puisqu'il a allégué que Obama n'était pas né sur le sol américain. Et donc la légitimité commencé, elle a commencé à se construire par ses apparitions très régulières dans Fox and Friends le matin, donc qui lui ouvrait son antenne par le biais de d'appels téléphoniques, et c'est comme ça que Trump en fait est rentré dans la sphère des médias conservateurs, dans la mesure où son positionnement est quand même en rupture par rapport à ce qui jusqu'à son arrivée au pouvoir étaient les canons du conservatisme.
Et il n'y a pas que Fox News, hein. Parmi les médias conservateurs, quels sont les meilleurs relais pour Donald Trump, Sébastien Maure?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a donc Fox News qui fait partie des médias historiques, des médias conservateurs historiques, avec les talk-shows radiophoniques aussi. Donc, il faut parler de Rush Limbaugh, par exemple, qui est aussi un soutien indéfectible de Trump. Et puis, il y a une nouvelle génération de télévision câblée, comme One American News Network et Newsmax, qui sont apparues en 2013-2014 et qui, elles, en fait, se sont servies de la campagne de 2016 pour se légitimer elles-mêmes dans le paysage médiatique. Et surtout, c'est leur soutien à Trump, leur soutien immédiat, qui a permis de les mettre sur orbite. En revanche, ce sont pas des chaînes qui affichent les mêmes scores d'audience que Fox. Toute la question est de savoir si Fox va rester un allié indéfectible ou si on va avoir une faiblesse dans le soutien qui lui est apporté. Et dans ce cas-là, ces chaînes-là pourraient éventuellement constituer un repli pour Trump une fois qu'il ne sera plus au pouvoir. Il faut quand même souligner que ce ne sont pas des chaînes qui, du point de vue esthétique, du point de vue visuel, du point de vue de la qualité de production, sont au même niveau que Fox. Et ça peut intervenir éventuellement dans la dynamique de ces relations.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous percevez du côté de Fox News? Est-ce que le soutien vous semble toujours inconditionnel aujourd'hui, ou est-ce que ça s'effrite un petit peu?
Alors, je crois qu'il faut revenir justement à cette idée qu'il y a une distinction très nette entre, d'un côté, le service de l'information et, de l'autre côté, le service des émissions d'analyse politique du soir. Puisque quand on dit, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, en fait, c'est l'idée que Fox a lâché Trump. Alors effectivement, il y a une prise de distance par rapport à Trump de la part du service d'information, de la part de Murdoch également. Je crois que Murdoch a un positionnement stratégique par rapport à cette question-là, parce qu'en fait, il a compris très vite que Trump avait perdu. Et son intérêt à lui, c'est de ne pas créer un antagonisme avec la prochaine administration Biden, dont il va avoir besoin en termes d'arbitrage en lien avec la réglementation et l'exploitation de son réseau. Donc ça, c'est le service de l'information d'un côté. Mais le centre de gravité et l'identité de Trump, c'est pas tant le service d'information que les émissions de discussion politique qui sont diffusées le soir. Et ces émissions-là, elles continuent de soutenir Trump, elles continuent inlassablement à alimenter le récit d'une élection qui aurait été volée. Ce sont des émissions qui cherchent à mettre en exergue la moindre preuve qu'il y aurait eu des irrégularités dans tel ou tel État. Et effectivement, il y a une baisse sensible de l'audimat de ces émissions, mais qui me paraît correspondre davantage à la baisse généralisée en fait des programmes d'information et des programmes de discussion politique, qui correspond en fait à ce moment où, si vous voulez, la fièvre de l'élection redescend. Oui. Donc je ne crois pas qu'à l'avenir ces émissions tourneront le dos à Trump. Elles ont aussi un intérêt à continuer à le soutenir, parce que le soutien qu'elles leur apportent est aussi gage de succès pour elles. Et puis le lâcher, ce serait aussi se désavouer elle-même, ce serait en fait revenir sur le soutien qu'elle lui a apporté pendant toutes ces années.
Je me tourne vers vous, Grégory Phillips. Depuis une dizaine d'années aux États-Unis, il y a une discipline journalistique qui s'est imposée, le fact-checking. Sous Donald Trump, c'est plutôt le règne de la vérité alternative. Est-ce que ce fact-checking fonctionne toujours?
Oui, ça a été vraiment un exercice de ces 4 années de présidence Trump. Vous l'avez dit, le Washington Post, par exemple, tient un décompte des mensonges ou des approximations du président. Et puis, on a vu ces dernières semaines et ces derniers mois, des chaînes d'information comme CNN, par exemple, fact-checker, vérifier en direct les déclarations de Donald Trump, et parfois même arrêter des conférences de presse, estimant que là, Trump mentait aux Américains et que les chaînes n'avaient pas à diffuser en direct de tels propos. Donc ça a été un exercice, évidemment, de lutte, de combat quasiment contre ces faits alternatifs, cette autre réalité qui, d'un autre côté, est relayée. Les chaînes que votre invité évoquait à l'instant, par exemple OAN, continue de dire que Trump a gagné l'élection, hier soir encore, alors que factuellement, il a les grands électeurs nécessaires. Donc il y a effectivement un combat, un bras de fer entre des médias qui tentent de présenter les faits et d'autres qui présentent une autre réalité.
Et le problème, c'est que avec les avancées technologiques, on peut aujourd'hui manipuler images, sons, vidéos. Donc c'est assez difficile de prouver ce qui est vrai et ce qui est faux.
Oui, alors d'autant plus que évidemment on parle des grands médias, des grands réseaux télévisés, mais il faut pas oublier, et vous l'avez dit tout à l'heure, que pour beaucoup d'Américains, l'information elle vient surtout des réseaux sociaux, de Facebook notamment, ou des réseaux de diffusion de vidéos. Et là, évidemment, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et effectivement, avec les nouvelles technologies, les vidéos deepfake où on peut faire dire à n'importe quel responsable politique des propos qu'il n'a pas tenus, ça circule évidemment sur des réseaux. Et évidemment, on pense à toutes ces théories complotistes relayées notamment par le mouvement QAnon. Là, on n'est pas dans les médias, mais il faut pas oublier effectivement que pour, je crois, un peu plus de 40% des Américains, l'information, elle vient d'Internet et pas des médias traditionnels.
Maxime Tellier, une question.
On a beaucoup parlé des inquiétudes que suscite Donald Trump, le fait qu'il s'en prenne à la presse d'une façon inédite par rapport au président auparavant. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que cette guerre qu'il prétend mener aux médias est efficace? Parce que quand on regarde concrètement, chez beaucoup de groupes de presse, on peut parler d'un âge d'or économique. Par exemple, le New York Times, les recettes des abonnements en ligne ont dépassé celles du papier l'été dernier, avec 6 millions d'abonnés aujourd'hui. Le New York Times qui pourrait presque se passer des recettes publicitaires. Le Washington Post aussi, qui a gagné énormément d'abonnés. C'est le correspondant du New York Times à Paris, Adam Nociter, qui le dit. À chaque fois que Trump nous attaque, on gagne 10 000 abonnés. Alors, est-ce que cette guerre est finalement perdue par Donald Trump ?
Sébastien Mort.
Oui, alors je crois qu'en fait, il ne faut pas se tromper sur le but de cette guerre qui est livrée contre les grands médias d'information. Je ne crois pas du tout que le but, ce soit ni de censurer, ni de faire en sorte que ces grands médias-là ne soient plus en position de relayer le discours de Trump et de couvrir Trump. Moi, je crois qu'au contraire, c'est une campagne qui vise à créer du spectacle. C'est cette campagne d'intimidation, en fait, elle est centrale dans la stratégie politique de Trump, parce que précisément, elle permet de donner des gages à sa base qui elle-même est très hostile aux médias grand public, que il mène le combat contre un de leurs ennemis. Donc je crois qu'il faut pas voir ça comme quelque chose qui vise à affaiblir les médias, parce que de toute façon Trump a besoin des médias grand public. Il peut pas assurer sa légitimité politique et sa survie politique simplement avec Twitter et simplement avec les médias conservateurs. Et effectivement, je crois que l'effet principal, et qui est un effet à plus long terme, c'est que ça contribue à l'érosion de la confiance que les Américains ont en les médias. Mais finalement, en fait, ils jouent gagnant en faisant ces deux choses-là, parce que ils n'affectent pas leur capacité à le couvrir et à couvrir le spectacle permanent, mais en même temps, il affaiblit d'autant la confiance que les Américains peuvent avoir en lui. Donc finalement, c'est un jeu gagnant. Mais à mon avis, l'objectif n'est pas du tout de gagner la guerre et de censurer ces médias ou de faire en sorte qu'ils disparaissent.
Et est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les médias américains « mainstream » entre guillemets sont réellement discrédités ?
Ben, ça dépend auprès de qui. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a très bien vu dans le reportage et dans les échanges, du point de vue des Américains qui sont plutôt ou centristes ou des républicains modérés ou des gens qui sont à gauche, effectivement leur blason a été redoré. Je crois que dans le reportage on évoquait les remerciements qui sont adressés aux journalistes de façon spontanée depuis que Trump est arrivé au pouvoir. En revanche, du côté conservateur, effectivement, la confiance dans ces médias-là, elle est proche du niveau zéro.
Maxime Tellier.
Est-ce que cette fracture de confiance entre les Américains et la presse est due aussi, selon vous, à la disparition de la presse locale ? Jonathan Salant, qu'on entend au début du grand reportage, en parle. Il a été le témoin de cette disparition.
Je crois que c'est un élément, effectivement, qui est central, parce que les médias locaux, en fait, sont les premiers médias d'information pour une grande partie de la population. Je parle des médias hors ligne, hein, parce qu'effectivement, comme on l'a signalé tout à l'heure, le Facebook est une source principale d'infos. Ce sont aussi des médias dans lesquels les Américains ont le plus confiance. Et puis, il joue un rôle extrêmement important au niveau du tissu local. Donc, la disparition de ces médias est absolument terrible parce qu'ils permettent aussi de faire remonter dans la conversation nationale des discussions, des thématiques qui sont pertinentes pour certaines communautés. Et ça, ça a joué un rôle particulièrement important en 2016 quand on a parlé de la désaffection de certains électeurs traditionnellement démocrates qui ont voté pour Trump. Ça, c'est un phénomène qui est passé totalement, ou en tout cas en grande partie, sous le radar des médias grand public et des médias nationaux, particulièrement à cause de ces déserts informationnels. J'ajoute aussi que ces déserts informationnels, en fait, ils sont pas perdus pour tout le monde, parce qu'il y a un réinvestissement du local par des médias conservateurs, notamment par le biais de la télévision locale et du réseau Sinclair Group, qui donc, lui, est détenteur de chaînes locales qui ont une affiliation avec des réseaux nationaux et qui remplit la grille des programmes en dehors des créneaux du prime time par des contenus qui sont favorables à Trump. On a vu aussi bourgeonner tout un réseau de sites qui se présentent comme des sites d'information en ligne, mais qui en fait sont des sites de propagande pour les conservateurs et pour les républicains, et qui ont l'apparence d'un journal local, qui sont identifiés à la zone géographique qu'ils desservent. Donc en fait, c'est une situation qui est dramatique à deux égards, parce que l'information locale disparaît, elle est remplacée par une information qui est orientée vers le national et qui a une très forte coloration conservatrice, donc qui est en fait crée une asymétrie dans l'idéologie de l'information qui est véhiculée.
Est-ce qu'il y a des solutions face à ce constat? Est-ce qu'il y a des réflexions pour trouver un nouveau modèle économique pour un journalisme de qualité? Et puis, je pense aussi à ce que disait la dernière intervenante, l'étudiante en journalisme Sarah Goodman, qui parlait aussi d'une réglementation de Fairness Doctrine qui a disparu et qui permettait d'avoir la présentation de tous les points de vue dans les médias audiovisuels.
Oui, alors la Fairness Doctrine, effectivement, qui a été abolie en 87, permettait précisément que l'information qui est proposée au niveau local, à la radio et à la télévisée, soit en lien avec les intérêts des communautés. Et elle permettait, en tout cas, elle imposait l'obligation que des débats soient organisés sur des questions d'intérêt public. Mais cette Fairness Doctrine, en fait, elle portait essentiellement, enfin quasi exclusivement, en fait, sur les médias hertziens. Donc, en fait, elle régulait l'expression sur les ondes qui sont considérées dans la loi américaine comme un bien public. Donc, effectivement, sa disparition a permis la libération d'une parole partisane au niveau local. Mais je pense pas elle n'aurait pas pu être un rempart à ce foisonnement de chaînes partisanes câblées, parce qu'en fait, la Fairness Doctrine, tout simplement, ne réglementait pas les réseaux câblés. Ensuite, pour ce qui est d'une solution à apporter à cet état de délabrement du journalisme local, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, notamment il y a des fondations qui ont été créées, qui ont accordé des financements colossaux à des initiatives pour reconstruire donc le tissu des journaux locaux. Et puis il y a aussi eu des initiatives au niveau national. Je pense par exemple à l'initiative qui a été engagée par le Washington Post et qui s'appelle The Talent Network, donc le réseau des talents, et qui en fait fait appel de façon ponctuelle à des journalistes locaux pour qu'ils fassent part de leur expertise et de leur connaissance du terrain en lien avec des questions qui peuvent prendre une importance au niveau local, mais qui ont aussi une pertinence nationale. Je crois que ce qu'il faut revoir, en fait, c'est ce que disent en fait tous les commentateurs des médias américains, c'est ce que disent tous les chercheurs en journalisme. Il faut revoir en fait le modèle qui est un modèle quasi exclusivement commercial et qui fait que la survie du journalisme en fait dépend des revenus publicitaires. Donc il y a un autre modèle à inventer qui serait plus tourné vers une visée, une optique civique, et qui trouve des moyens de financement autres que des revenus publicitaires, un peu sur le modèle des médias publics que sont PBS et NPR, qui ne sont pas des médias financés par l'État, mais qui sont des médias à but non lucratif et qui trouvent leur financement par des sources privées, par le sponsoring, par le soutien des auditeurs, mais qui n'ont pas une visée lucrative.
Je reviens vers vous, Grégory Phillips. La page Donald Trump à la Maison-Blanche se tourne. Est-ce qu'avec l'arrivée de Joe Biden, on peut s'attendre à un retour à la normale, entre guillemets, ou est-ce que ce mandat de Donald Trump a durablement changé la relation entre la présidence et les journalistes américains?
Écoutez, on verra bien. On aura sans doute une présidence plus apaisée, c'est évident, avec un président qui ne va pas sur Twitter ou dans les conférences de presse attaquer les journalistes. Après, moi, ce que j'ai constaté au fil de ces quatre dernières années, c'est que quand même la polarisation, la division de ce pays, elle se voyait aussi tout simplement en allumant sa télévision. Évidemment, on évoquait Fox News, les émissions du matin ou du soir, mais je sais pas, sur MSNBC le soir, par exemple, vous avez un talk show de Rachel Maddow qui était très anti-Trump aussi. Sur les grands réseaux nationaux, les late shows pendant 4 ans ont tapé sur Trump tous les soirs, avec sans doute pour les supporters républicains une détestation de ces grandes émissions. Donc moi, j'ai vu une Amérique divisée, polarisée, et ça se voyait également, par exemple, en allumant sa télévision matin et soir. Donc est-ce que on va revenir à quelque chose d'un peu plus normal, d'un peu plus rassemblé? On verra, et on va voir aussi effectivement ce que les médias conservateurs, Fox, OAN, Newsmax aussi, on va voir quel va être leur positionnement une fois que Trump aura quitté le pouvoir. Est-ce qu'ils vont entretenir ce mouvement, le Trumpisme qui existe, qui est là et qui existera encore sans doute longtemps après le départ de Trump.
Merci Grégory Phillips, merci Sébastien Mort. 4 ans de fake news, être journaliste dans l'Amérique de Trump. Le grand reportage de cette semaine était signé Maxime Tellier. Réalisation Annie Bro avec Laurie Vachon à la technique. Merci également à l'équipe de la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.